Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie
se lève. Fallait s'y attendre, hein, Monsieur Legault, on a fait mention hier sans le détailler. On va le détailler avec elle. Bonjour, Madame Blais.
Bonjour, Madame Gaudreau.
Bonjour. Donc, décortiquez-nous ça ce matin, là.
Alors, 133 millions pour l'ensemble, disons que 40 millions, là, 40 millions pour les résidences privées pour aînés, 20 millions pour les CHSLD privés qui ne sont pas conventionnés, 73,3 millions pour les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, le gouvernement a demandé à ce que nos personnes âgées, même nos personnes handicapées, tu sais, restent à la maison, soient confinées. Donc, ça prend du personnel. Il y a aussi du personnel malade ou des gens qui ont plus de difficultés à sortir pour aller travailler là actuellement. Là. Il y a de l'angoisse, il y a de la détresse. Donc, on veut être en mesure de pouvoir embaucher du personnel, de pouvoir aussi faire en sorte que si le personnel a travaillé des heures supplémentaires, d'être en mesure de les payer, de se procurer aussi du matériel sécuritaire et de se procurer des désinfectants et même d'embaucher des gardiens de sécurité. Si on se rend compte que, bon, ben, on a mis en place toutes les mesures puis que les gens continuent à sortir par la porte d'en arrière.
Oui. Madame Blais, est-ce que, sans dire que c'est le cas partout, je ne pense pas, là, je pense que la plupart des gens font bien ça, mais dans les résidences, il y en a encore de ça, des gens qui sortent par une porte d'en arrière, qui ne respectent pas, sans dire que c'est la majorité, vous en avez encore des cas comme ça?
Ben écoutez, on le voit dans les journaux, là, même aujourd'hui, là, qu'il y a des gens qui sont sortis par la porte du garage. Il y a des personnes qui se croient invincibles parce qu'on le voit pas, le virus. Le virus est invisible et il peut se promener d'une région à l'autre. Et quand le virus entre, entre autres, dans une résidence privée pour aînés, les personnes qui ont 70 ans et plus ne sont pas plus contagieuses que les personnes plus jeunes, mais elles sont plus vulnérables. Donc, les complications peuvent se mettre de la partie et c'est là où on voit qu'on perd. Il y a des personnes qui décèdent parce qu'elles sont plus vulnérables. Ouais. Alors, il faut écouter les consignes de confinement. C'est pas toujours facile parce qu'il y a différentes formes de résidences pour personnes âgées. Il y en a de très grandes et on voyait aujourd'hui que les personnes sont à l'intérieur de la résidence, mais vont se baigner ensemble. Il faut garder une distance physique. On n'arrête pas de le dire, de 2 mètres. C'est important. Si vous pouvez manger dans votre chambre, faites-le. S'il y a de petites résidences où c'est pas aménagé pour ça, faites manger les gens en tout petit groupe avec une distance. C'est ça qui est important.
Ouais.
Et puis, les bébés boomers là qui arrivent bien souvent de la Floride, je dis pas tous les bébés, je dis les bébés boomers, mais j'aurais dû dire les snowbirds. Nos snowbirds, là, il faut aussi qu'ils écoutent les consignes. Là, quand on mentionne 14 jours à l'intérieur de votre logement ou de votre résidence, c'est 14 jours sans aller faire de course.
Exact. Parce que là, en fin de semaine, ça s'est même précisé là, pour les gens, notamment les snowbirds, vous y avez fait référence, qui reviennent. Il n'y a même plus de marche à l'extérieur. Là. C'est tu restes chez toi, tu es confiné à l'intérieur. Je le sais que c'est plate, mais la situation s'impose.
C'est comme ça.
Exact.
Mais vous savez, le 133 millions qu'on annonce aujourd'hui, ça s'est fait très, très rapidement avec le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Et c'était nécessaire, essentiel. Je connais des propriétaires de résidences qui étaient au bout. Là. Ils ne savaient plus comment faire pour être en mesure de tout se procurer puis d'être capable de payer les heures supplémentaires. Donc, c'est vraiment une mesure exceptionnelle dans une époque, dans une période de la COVID-19 qui est tout à fait exceptionnelle. Et il faut dire aussi que, bon, on ne veut pas qu'ils augmentent les loyers, là.
Oui.
Faut que les loyers restent les mêmes. Et on va demander, à la fin de la pandémie, une reddition de compte, là. Pour l'instant, on va distribuer les sommes d'argent, mais ces sommes-là, là, on va avoir besoin de factures, là. Qu'est-ce que vous avez fait avec, là?
Absolument.
Fait que ça, c'est important à mentionner aussi.
Madame Blais, je sais que vous suivez ça de très près. Est-ce qu'il y a des résidences actuellement que vous suivez de plus près? Je donne l'exemple, la résidence Eva, là. On en a beaucoup parlé dans le secteur Berthierville. On aurait un 5e décès, 28 cas confirmés. Il se passe quoi là-bas? Est-ce que vous êtes en étroit contact avec eux?
Oui, écoutez, c'est les six et les six, là, dans ce cas-ci, c'est le six de la Naudière. Écoutez, ouais. À tous les jours, il y a des communications. Et même, je dirais, à tous les deux jours pour l'ensemble des résidences privées pour aînés, là. On suit ça tellement de près. Les six et les six font, les personnes à l'intérieur des six et des six font un travail remarquable. Et on a même vu à certains endroits qu'ils ont déployé du personnel dans des résidences privées parce qu'ils en manquaient. Alors, oui, bien sûr qu'on suit ça de près. Puis là, il y a des agents de sécurité là à la maison. Eva, j'espère qu'ils sont encore là ce matin. Là, je peux pas vous donner la réponse précise, mais Madame, on a été obligé de le faire.
Mais Madame Blais, est-ce qu'on pourrait se rendre, puis je donne que ce soit, bon, je vais prendre la résidence Eva parce que c'est une résidence où il y a beaucoup de cas actuellement. Est-ce qu'on pourrait en venir à carrément devoir évacuer ou fermer la résidence?
Ben, écoutez, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des personnes qui étaient infectées qui vont aller dans des hôtels. Je veux pas trop m'avancer parce que le premier ministre fait un point de presse à tous les jours à 13h. Ouais. C'est une situation, comme le mentionne beaucoup le docteur Horacio Arruda, qui évolue d'heure en heure, de jour en jour. Mais je sais qu'il y a des hôtels qui sont organisés maintenant pour être en mesure d'accueillir des personnes. Ce qu'on veut pas, c'est que les infections se propagent.
Ouais.
Alors, c'est la raison pour laquelle il faut isoler les personnes, puis il faut arrêter de faire des fêtes à l'intérieur des résidences pour personnes aînées. Mm-hmm. Dans les CHSLD, ils sont habitués, le personnel est habitué à contrôler des virus. Là, vous le savez, quand on a l'influenza, des gastro, ils ont cette habitude-là. Ouais. Et actuellement, c'est bien structuré pour qu'il y ait ce qu'on appelle des zones chaudes et des zones froides, donc qu'on puisse isoler des personnes qui auraient des symptômes de la COVID-19. C'est sûr que dans certains petits CHSLD, c'est plus difficile d'avoir les deux zones, mais dans ce temps-là, c'est tout le CHSLD qui est en zone chaude, c'est-à-dire qui est en mode permanence de la COVID-19 avec les protections, etc., etc.
Madame Blais, en terminant, sans faire du cas par cas, je vous expose une situation, une question qui m'a été posée. Une personne de 70 ans et plus qui travaille encore dans un service essentiel, est-ce qu'elle est maintenue dans son travail et est-ce qu'à la limite, on peut la forcer à demeurer là? Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé?
Écoutez, j'ai pas la réponse précise. Je pourrais vous revenir, prendre ça en délibéré.
Okay.
Mais je vois pas pourquoi on forcerait les gens à travailler s'ils se sentent mal à l'intérieur de ça. Moi, je suis restée à la maison pour donner l'exemple comme ministre des aînés, parce que je trouvais qu'on avait des aînés qui sortaient trop. Je n'ai pas encore 70 ans, mais disons que vous pourrez m'appeler pour ma fête, c'est au mois de septembre. Je suis pas loin. Hein?
Okay,
je suis pas loin.
Bon. Okay.
Alors, ça fait en sorte que j'ai voulu donner l'exemple aux aînés, mais j'ai pas la réponse à votre question, mais je vais vous revenir. Étant donné que vous êtes en onde jusqu'à 10 heures, là, je vais vous transmettre l'information.
Parfait. Madame Blais, j'ai une auditrice qui était en bout de ligne. Elle se demandait, une propriétaire de résidence pour personnes âgées, elle dit, si je suis à bout de souffle, là, on est fatigué, on se sent démuni un peu, est-ce que j'ai le droit de fermer?
Si elle a le droit de fermer.
Oui, c'était sa question.
Oui, mais là, elle va faire quoi avec ces personnes âgées?
C'est une bonne question. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous acceptez qu'elle soit là, Mme Blais? Je ne veux pas vous prendre au piège. Elle est en bout de ligne. Est-ce que vous préférez qu'on gère ça en dehors des ondes?
On va gérer ça en dehors des ondes.
Okay.
Mais écoutez, là, il y a vous savez, les entreprises d'économie sociale, ils ont des préposés pour l'aide à domicile et ces gens-là là, sont disponibles pour aller prêter main forte. Là.
Alors, qu'est-ce qu'elle a comme ressource? On peut l'envoyer vers qui ce matin, là, cette femme-là?
Bon, là, ce matin, là, elle est dans votre région.
Oui.
Elle peut appeler son CIUS de Trois-Rivières, puis on va lui trouver l'aide nécessaire. Là.
Parfait. OK. Alors, c'est ce qu'on va faire à ce moment-là avec notre auditrice. Madame Blais, je vous laisse là-dessus. Si vous avez la réponse, vous nous rappelez, on reste en communication.
Oui, je vais le faire. Et puis, je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe et toute l'équipe des médias, parce que vous faites aussi un travail essentiel. Vous vous levez à tous les jours.
Oui.
Et comme je mentionnais que le virus est invisible, écoutez, vous êtes à risque et je vous félicite pour votre travail.
Merci, Mme Blais. Au plaisir.
Au revoir.
OK, au revoir. Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches Aidants. Alors voilà, on va tenter de venir en aide à cette auditrice. Il y a des ressources qui sont là pour vous.